Vous écoutez Radio France Internationale, il est 17h30 temps universel, 18h30 à Paris. Et on retrouve tout de suite Romain Ouzoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir François, bonsoir à tous. Allez, bienvenue, c'est parti pour une nouvelle semaine. RFI Soir dans 30 minutes, l'Europe larguée face au secteur des panneaux solaires, ce sera notre rendez-vous de la rédaction. La demande explose, oui, mais la Chine glane tous les appels d'offres et cela grâce à sa politique à bas coût, vous le verrez. Le malaise des Occidentaux au lendemain de la réélection, sans aucune surprise, de Vladimir Poutine en Russie. Nos collègues de La Croix Hebdo sont allés à la rencontre des exilés de Poutine, ça c'est le titre du dossier qu'on décryptera, anonymes, militants ou encore artistes, tous sont russes, ils ont fui leur pays suite à l'invasion de l'Ukraine il y a 2 ans. 19h30, dans une heure, Afrique Soir, la toute première édition de ce lundi, ce sera avec Sylvie Berruet, mais pour le moment, l'heure est au débat.
Le débat du jour. Romain Ouzoui.
C'est l'application prisée des adolescents, utilisée au total dans le monde par 1,2 milliard de personnes. Elle est pourtant accusée d'être dangereuse pour la santé mentale. Elle est accusée de propager de fausses informations ou encore de diffuser la propagande chinoise. TikTok se retrouve aujourd'hui menacé d'interdiction aux États-Unis. Le Sénat, en effet, doit se prononcer sur le sujet prochainement après un vote dans ce sens de la Chambre des représentants la semaine dernière. Alors, est-ce qu'il faut y voir là une nouvelle étape de la guerre commerciale entre Moscou et Pékin ou est-ce que, c'est la question de notre débat ce soir, est-ce que TikTok doit être considéré comme dangereux? Et en quoi le serait-il davantage que les autres réseaux sociaux, notamment en tête Facebook ou encore Instagram? Peut-on encadrer TikTok? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités. À mes côtés en studio, Katia Roux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de plaidoyer Liberté pour l'ONG Amnesty International France, spécialisée en technologie et droits humains. Face à vous, Serge Abitboul, bonsoir.
Bonsoir.
Informaticien, chercheur à l'ENS Paris, l'école normale supérieure, directeur de recherche à l'INRIA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir, Vincent Lefrère.
Bonsoir.
Depuis Boston, aux États-Unis, vous êtes maître de conférence en économie à l'Institut Mines Telecom Business School et vous êtes actuellement à Boston, au Massachusetts Institute of Technology. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Serge Abitboul, d'abord, pour ceux qui ne la connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous présenter cette application TikTok? Comment elle fonctionne?
Oui, alors c'est un réseau social, c'est-à-dire un réseau social numérique. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez publier des contenus et sur laquelle vous allez pouvoir chercher des contenus de gens que vous connaissez ou pas. Alors, ce qu'elle a comme particulier, c'est le dernier géant parmi ces réseaux sociaux. Ses particularités, c'est premièrement d'être chinoise. Elle est chinoise alors que les autres sont pratiquement toutes des parties des GAFAM, le plus souvent de Meta.
Donc américaine.
Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, elle cible particulièrement les adolescents. Une grande majorité de ses utilisateurs sont des jeunes qui vont là-dedans, en particulier pour trouver des vidéos, les vidéos courtes. C'est les vidéos courtes qui ont fait le succès de TikTok.
Et pourquoi ça marche autant auprès des adolescents?
Alors là, c'est une très bonne question. Je pourrais dire la première raison, c'est que les adolescents ne veulent pas aller dans les mêmes réseaux sociaux que les parents. Donc les parents étaient sur Facebook, les enfants étaient sur Insta, les parents étaient sur Insta, les enfants étaient sur TikTok. Mais il y a aussi le fait que cette notion de vidéo où les enfants se mettent en scène, se mettent dans un coin. Je ne sais pas, vous avez peut-être déjà vu des ados se mettre dans un coin d'une salle et se mettre à danser devant un téléphone pour montrer à leurs copains, puis montrer au reste du monde. Ils adorent ça. Ils aiment bien interagir avec des vidéos et c'est un média et un vocabulaire qu'ils ont acquis très vite.
Vincent Lefrère, qu'est-ce qui fait le succès selon vous de TikTok aujourd'hui? Parce que c'est un phénomène mondial impressionnant, 1,2 milliard d'utilisateurs. Est-ce que c'est parce que, à la différence de Facebook, je sais pas, les vidéos sont plus courtes, nous disait Serge Abitboul, c'est ça qui crée peut-être un zapping plus fort et donc une addiction plus forte des plus jeunes?
Oui, très probablement, le format des vidéos joue. Il y a aussi le fait que l'algorithme qui propose ces vidéos-là est très performant et c'est un des points clés aussi dans cette guerre commerciale. Et enfin, je pense un des derniers éléments, c'est que TikTok est très interactif, un peu comme Twitch. On peut énormément participer et engager avec les personnes qui donnent du contenu. Et ces trois éléments font en effet que la plateforme est très aimée des jeunes et assez addictive. Pas plus forcément que les autres, mais en tout cas, elle fonctionne très bien parmi les jeunes.
Vous dites que TikTok a un algorithme très performant. Ça veut dire quoi un algorithme très performant? Et en quoi c'est un algorithme plus performant que les autres réseaux sociaux?
Alors c'est très difficile d'établir une performance qu'on sait avec TikTok. Avec TikTok, c'est qu'il y a un côté extrêmement addictif et difficile de sortir de l'application. Là où des géants du web américains comme Meta ont eu énormément de pression depuis des années, elles ont mis du temps à arriver, hein. Donc il ne faut pas dire que les Américains sont mieux de facto, c'est qu'il y a énormément de pression pour aider et pour interrompre cette addiction. Donc par exemple, on a pu voir des messages arriver sur Instagram disant qu'il fallait se déconnecter au bout d'un moment, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas pour TikTok. Et deuxièmement, sur TikTok, je pense que le format des vidéos très courtes avec énormément de contenu fait qu'on ne voit pas du tout le temps qui passe et on a l'impression d'en avoir consommé quasiment rien, alors qu'en fait, ça fait 2 heures qu'on est devant son écran. Ouais. Et là, l'algorithme aussi donne énormément de vidéos en utilisant les données personnelles des utilisateurs, en les maximisant. Il donne des vidéos avec un caractère très personnalisé, ce qui fait qu'on sait ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Enfin, la plateforme le sait et du coup, vous propose un contenu en adéquation avec vos likes, ouais. Grosso modo.
C'est le fameux fil intitulé « Pour toi ». Katia Roux, bonne illustration de cette addiction de TikTok. Vous avez, enfin vous, en tout cas Amnesty International France, a publié un rapport qui s'intitule, le titre est fort, « Poussé vers les ténèbres, comment le fil pour toi », que je viens de citer, encourage l'automutilation et les idées suicidaires. Vous pouvez nous expliquer et peut-être donner des exemples?
Oui, absolument. On a enquêté pendant plusieurs mois sur le fonctionnement justement de cet algorithme de recommandation et on a montré qu'il allait tout simplement pister tout ce que les jeunes utilisateurs et utilisatrices faisaient en ligne pour essayer de déduire des états d'esprit, pour essayer de déduire des centres d'intérêt, un niveau de bien-être et ensuite proposer des contenus ultra personnalisé donc sur ce fameux fil pour toi. L'idée, c'est de évidemment maintenir le plus longtemps possible les utilisateurs et utilisatrices sur la plateforme pour aussi collecter davantage de données et générer des revenus publicitaires. Pourquoi c'est très problématique? Parce qu'effectivement, il s'agit là d'un modèle de surveillance qui est basé sur ce que les jeunes font en ligne, ce qu'ils aiment, ce qu'ils regardent, ce qu'ils recherchent. Et on s'est aperçu dans notre enquête que les jeunes, par exemple, qui pouvaient montrer un intérêt pour des questions liées à la santé mentale pouvaient très vite être aspirés dans des spirales de contenu toxiques, addictives, qui pouvaient banaliser, voire idéaliser des pratiques comme l'automutilation ou le suicide. Pas parce que ce sont forcément des personnes qui sont extrêmement déprimées, simplement parce que l'algorithme a repéré que ces jeunes avaient un intérêt pour ces questions-là et donc vont leur proposer des contenus, des vidéos sur ces sujets-là. Et on a pu, à l'aide de comptes automatisés qu'on a pu faire varier en fonction des différents paramètres, qu'au bout de 20 minutes d'utilisation, des personnes présentant un intérêt pour ces questions-là se voyaient quasiment systématiquement proposer des vidéos sur ces thématiques-là. Et donc, si une personne...
Ça, par exemple, on ne le retrouve pas ailleurs. Alors, je ne sais pas si vous avez mené l'enquête aussi sur les autres réseaux sociaux.
On n'a pas mené l'enquête ailleurs. Alors, de fait, ça a déjà été dit, c'est le même modèle de développement économique de tous les réseaux sociaux, l'économie de l'attention, capter un maximum de données personnelles, essayer de découvrir les centres d'intérêt, de booster les contenus qui vont permettre de maximiser l'engagement et de maximiser les profits. TikTok a poussé cette logique à l'extrême. D'accord. Et on voit que c'est extrêmement dangereux pour les droits humains.
Mais il y a une volonté, vous diriez, toxique, d'ailleurs, nocive. Alors, des créateurs de TikTok?
La volonté, elle est de maximiser les profits, coûte que coûte. En fait, c'est là qu'il y a le danger. C'est-à-dire que si ça veut dire proposer des contenus qui peuvent être dangereux, on va les proposer.
Tant qu'on maintient l'addiction,
l'engagement, l'attention, même si ça peut avoir des effets dramatiques dans la vie réelle.
Vincent Lefrère, j'entends que vous souhaitez réagir.
Oui, parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je pense que c'est les réseaux sociaux un outil. Ils ont aussi eu, il y a aussi des éléments qui montrent qu'ils ont eu des effets bénéfiques, par exemple dans la circulation de l'information dans le cadre du Covid, donc dans des travaux qu'on a menés dans le cadre de Carnot TSN. On voit aussi que les jeunes utilisent les réseaux sociaux pour s'informer, bien plus que la télé ou la radio, et que ces réseaux sociaux ont été aussi un moyen de pousser, par exemple, à avoir plus de comportements adéquats durant la crise du Covid. Donc ça reste un outil qu'il ne faut pas non plus décrire comme le mal absolu.
Non, voilà, mais Katia Roux abonde dans votre sens. En faisant oui de la tête, vous ne dites pas que tout est à jeter dans TikTok.
Pas du tout, effectivement. Ça peut être un formidable espace de discussion, de créativité, de partage, ouais. de confrontation de points de vue. Là où ça devient effectivement compliqué, c'est quand ça vient impacter négativement les droits humains. Et c'est bien pour ça que ce n'est pas TikTok, la plateforme qu'il faut fermer. Ce sont les modèles de développement économique de ces réseaux sociaux qu'il faut revoir précisément pour que ça reste des espaces sûrs et sereins pour tout le monde.
Donc TikTok menace pour la santé mentale des adolescents. Vincent Lefrère, vous avez évoqué un mot important, s'informer avec les réseaux sociaux. 20% des vidéos d'actualité sur TikTok seraient fausses ou trompeuses. C'est ce qu'affirme une start-up de lutte contre la désinformation NewsGuard. Ça vous inspire quoi? Et est-ce que ça aussi c'est un fléau plus important que sur les autres réseaux sociaux?
Je ne suis pas sûr que ça soit plus important que sur les autres réseaux sociaux. La vraie question ici qui se pose, c'est la souveraineté. En fait, derrière TikTok, c'est la question qui se pose, c'est la souveraineté. Donc là, le problème, c'est que c'est une entreprise chinoise. En Europe, ça fait, par exemple, on a mis en place le Digital Service Act, qui est une régulation européenne, qui force les plateformes à plus de transparence à ce niveau-là. Et TikTok est déjà sous coup d'une investigation parce qu'elle ne protège pas assez les mineurs. Donc je pense que là, pour le cas des États-Unis ou de la mauvaise information, la question c'est qui la fait circuler et pourquoi, dans quel but. Et donc on revient à la question de la souveraineté. Je pense que c'est le point clé dans ça. Est-ce que on a bien vu que sur Facebook, par exemple, dans l'élection de Trump de 2017, il y a eu des suspicions d'ingérence russe. Pourtant, la plateforme est américaine. Donc, je pense que la fausse information circule si elle n'est pas contrôlée ou pas régulée, de toute façon.
Serge Habitboul, finalement, Vincent Lefrère rebondit aussi avec le même argument que vous, la différence avec les autres sociaux, c'est que la maison mère, ByteDance, c'est chinois, TikTok. Mais en quoi est-ce que c'est une différence? En quoi c'est plus gênant de voir ces données être collectées par une maison mère chinoise que par une société américaine?
Je voudrais d'abord, oui, c'est une question qui est très intéressante. Je voudrais juste faire un tout petit recul en arrière pour revenir à un point que vous avez soulevé tout à l'heure, qui est une question aussi. Est-ce qu'ils le font sciemment?
Est-ce qu'ils font quoi sciemment?
Est-ce qu'ils font sciemment des informations? Est-ce qu'ils poussent sciemment des contenus toxiques, etc.? Il faut oublier ça, à mon avis. On est dans la théorie du complot. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font deux choses qui sont, à leur avis, géniales. Premièrement, personnaliser, c'est-à-dire donner l'information à l'utilisateur l'information dont il a envie, c'est dont il a vraiment besoin, celle qui lui plaît, celle qui va lui faire rester. Et la deuxième, on a parlé tout à l'heure, c'est le business model, c'est maximiser leur profit. Pour une entreprise, ce n'est pas scandaleux de maximiser leur profit. Donc voilà, garder les gens le plus possible. Et alors, il se trouve que dans les intérêts que les gens ont, des fois, il y a des intérêts qui ont un sens positif, comme de lutter contre le Covid, l'exemple de tout à l'heure, ou des intérêts négatifs comme d'aller vers une certaine dépression, d'avoir des idées suicidaires, etc. Donc il faut, du coup, la question c'est comment on arrive à garder tout ce qu'il y a de bien sur ces réseaux sociaux, parce que si les jeunes y vont, c'est pas par masochisme, c'est parce qu'ils adorent ça, c'est parce qu'ils s'éclatent dessus, d'accord? Et même les moins jeunes. Donc la question c'est comment on arrive à garder ça sans accepter les atteintes aux personnes. Et là, en Europe, on bénéficie d'un truc qui s'appelle le DSA, qui est un premier pas
ça vient d'être évoqué vers le Digital Services Act.
Le Digital Services Act, le RGPD qui protège nos données. Donc on va vers des régulations qui font qu'on devrait pouvoir. Alors, je ne dis pas qu'on y arrivait, il va falloir modifier ça encore certainement beaucoup, parce que ces plateformes sont extrêmement intelligentes pour qu'on retourne les lois, etc. Mais pour faire que on puisse mettre ces outils qui sont fantastiques au service de la société et pas à des trucs qui sont pourris. Quoi.
On évoquera là comment encadrer TikTok, mais j'aimerais avoir votre avis sur la question que je vous ai posée. En quoi est-ce que c'est plus gênant de voir ces données collectées par une société chinoise que par les GAFAM, Facebook en tête?
Alors, moi, je suis complètement en dehors de mes plates-bandes. Je ne suis pas du tout spécialiste de géopolitique ou de stratégie. Tout ce que je sais, c'est que historiquement, les Américains, c'est des copains. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont très souvent nos alliés. Les Chinois, en ce moment, sont plutôt dans l'autre camp. Donc, je me méfie un peu. Il y a aussi quelque chose qu'on oublie du point de vue économique, c'est que les États-Unis ont un marché qui est ouvert, dans lequel vous pouvez aller placer créer des entreprises. TikTok, une entreprise chinoise, est allée s'installer aux États-Unis, est allée s'installer dans le monde entier. Le marché chinois, en contrepartie, n'est pas ouvert. D'accord. Donc, Là, on est en train de dire, mais est-ce que c'est bien de fermer économiquement une entreprise ? D'un autre côté, les grandes entreprises comme Google et Facebook sont pas du tout, ou Meta, sont pas du tout, ont pas pu se développer en Chine parce que le marché est fermé. Donc, il n'y a pas de symétrie non plus.
Katia Roux, sur ce point, encore une fois, des collègues de données, parce qu'évidemment, elles sont au cœur des réseaux sociaux. J'aimerais avoir votre avis, parce que ce que reproche le Congrès américain à TikTok, il y a donc eu ce vote de la Chambre des représentants la semaine dernière des États-Unis pour obliger ByteDance, donc ByteDance, c'est la société mère de TikTok, la société mère chinoise donc de TikTok, à vendre l'application, sinon TikTok serait interdit aux États-Unis. Et ils évoquent une menace pour la sécurité nationale en disant les données personnelles qui sont récupérées par TikTok, là où c'est récupéré à des fins commerciales chez Meta, donc Facebook ou Instagram, ça peut être utilisé par les renseignements chinois. Et effectivement, il y a cette fameuse loi sur la sécurité nationale en Chine qui dit que toutes les organisations doivent soutenir, aider, coopérer avec les services de renseignement chinois. Donc, est-ce qu'avec le développement de TikTok, il y a plus ce risque d'une surveillance de masse que ce qu'on peut observer chez Meta ?
Alors, nous, on n'a pas non plus enquêté sur cet aspect-là de possible surveillance étatique ou ingérence. La question de la collecte de données, pour nous, elle se pose comme elle se pose effectivement dans tous les autres réseaux sociaux.
Ouais. Il n'y a pas le risque que ça aille directement, pour faire simple, vers les renseignements chinois et non pas uniquement à des fins commerciales.
Pour ça, il faudrait pouvoir enquêter, ouais. ce que nous, on n'a pas pu faire. On a enquêté effectivement sur l'utilisation à des fins commerciales, de ciblage de contenu, pour maximiser les revenus, mais pas sur les autres aspects. Donc, la question a été soulevée. Il y a effectivement plusieurs enquêtes qui sont en cours, notamment donc, l'enquête effectivement au niveau de la Commission européenne visant TikTok et son manque de protection vis-à-vis des jeunes utilisateurs et utilisatrices. Donc, nous, on est plutôt sur ce terrain-là, à voir quel est l'impact que ça va avoir sur les jeunes. Et je veux rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Serge Habitboul, notamment sur les jeunes qui sont effectivement complètement addicts. Nous, on leur a beaucoup parlé dans le cadre de cette enquête. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que non seulement ils sont addicts, mais ils sont extrêmement conscients de leur addiction. C'est-à-dire qu'ils se sentent complètement dépendants et impuissants. Dépendants de cette plateforme, de ce fil pour toi, et impuissants face à la collecte des données personnelles. Et en réalité, ils ont des idées pour faire évoluer ce modèle, pour le voir changer. Ils savent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas sur une plateforme comme TikTok. Ils sont aussi porteurs de solutions. Et donc là, oui, on a maintenant un cadre au niveau européen, mais ça ne concerne que l'Union européenne. Les jeunes, 90% des jeunes vivent hors UE, Australie et États-Unis, qui sont les zones où on peut avoir des études d'évaluation, mais le reste du monde, non. Et donc, c'est effectivement important que TikTok et les autres plateformes protègent les utilisateurs partout dans le monde sans faire de différence.
Vincent Lefrère.
Oui, moi, ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est que, en fait, tous les pays ont à peu près la même approche. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que quand même en 2018, si je ne me trompe pas, ou 2019, TikTok, à l'époque Musical.ly, est déjà condamné par la FTC, donc est l'organe de la régulation des données personnelles aux États-Unis, parce qu'il collectait trop d'informations sur les enfants et il ne demandait pas le consentement aux parents. Mais ça n'avait pas fait un tel tollé, parce que TikTok était à l'époque une très grosse application déjà, mais pas à ce point. Mmh. Et bien sûr que ça pose les problèmes que des données des enfants soient rapatriées en Chine, en Chine, où dans ces cas-là, on n'a plus de contrôle. Mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est de voir l'historique. C'est-à-dire que la FTC les condamne, ils me tapent sur la main, ils grossissent, et là, on sort le bazooka d'une certaine façon. Et on voit les trois approches. En Europe, on n'a pas de GAFA, on n'a pas de géant du web, ou très peu. Du coup, on régule très fort parce qu'on ne veut pas d'ingérence. Aux États-Unis, jusqu'à présent, c'était que des Américains, donc ils ne régulaient pas, et c'était un peu ou très peu en disant pour l'instant c'est les sociétés américaines, on ne s'en occupe pas. Mais il ne faut pas oublier que l'Europe, par exemple, commence à réguler parce que le gouvernement américain a accès à toutes les informations de ces plateformes. Et donc l'Europe demande le rapatriement des données personnelles des Européens en Europe, par exemple. Et là, on voit que la Chine émerge et que TikTok arrive et devient la plus grosse puissance. Et là, on pose la question des données, qui était déjà une question qu'on posait il y a 5-6 ans. Et pour autant, il y avait déjà eu des condamnations, mais c'était minime par rapport à ça. Donc, je pense que si on prend dans la vision globale, la vraie question, c'est le côté économique et souveraineté, en fait, encore une fois. Voilà.
– Est-ce que TikTok doit être considéré comme dangereux? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, mes trois invités, Vincent Lefrère, que l'on vient d'entendre, maître de conférence en économie à l'Institut Mines Telecom Business School, en ligne avec nous depuis Boston, Serge Abitboul, informaticien, chercheur à l'ENS Paris, directeur de recherche à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique, et Katia Roux, chargée de plaidoyer Liberté pour Amnesty International France, spécialisée en technologie et droits humains. Je voudrais rebondir sur comment encadrer TikTok, parce qu'on a évoqué le fléau TikTok, en tout cas la menace, notamment avec vous, Katia Roux, auprès des plus jeunes, que représente ce réseau social. Serge Abitboul, ce Digital Services Act, le fameux règlement européen sur le numérique, concrètement, en quoi il protège les adolescents des dangers de TikTok?
Alors, c'est une approche assez intéressante. Il ne dit pas, il ne liste pas des choses, vous faites comme ça, vous faites comme ci, etc. Ce qu'il dit, et c'est à mon avis la bonne approche, c'est qu'il y a des problèmes systémiques avec ces grandes plateformes. Et ces problèmes systémiques, il faut qu'elles nous aident à les régler, parce que d'une certaine façon, ce n'est pas que la loi qui y arrivera. Et donc la question, c'est ces grandes plateformes doivent faire une analyse des problèmes qu'elles créent. Elles savent très bien, je veux dire, Facebook, Instagram, TikTok savent très bien qu'il y a des enfants qui se suicident parce qu'ils regardent trop leur contenu. Et je ne pense pas que ça leur fasse plaisir, parce que c'est pas comme ça qu'ils gagnent de l'argent, d'accord ? Donc, elles doivent analyser le problème, elles doivent proposer des solutions, et elles doivent mettre des moyens sur la table pour corriger ces problèmes.
Mais c'est complètement en cours.
C'est en cours, c'est que ça démarre. Et la chose qui est intéressante, c'est que au moins maintenant, on les pointe du doigt, on leur montre la responsabilité. Parce que pendant très longtemps, les gens ont peut-être plus conscience de ça, mais pendant très longtemps, on a vécu dans un système où elles n'étaient responsables de rien. C'est-à-dire qu'elles étaient en train de dire, ouais. Ben non, c'est quelqu'un, c'est vous, c'est monsieur machin, c'est monsieur truc qui a publié sur ma plateforme, moi j'y suis pour rien. Si vous me montrez que c'est illégal, je vais l'enlever, mais en gros, c'est trop tard, quoi. Donc maintenant, elles sont reconnues, en tout cas en Europe, comme responsables et tenues de protéger les données de leurs utilisateurs, tenues d'éviter les messages de haine, tenues d'éviter les infonews, etc. Ça va prendre du temps, mais en tout cas, maintenant, il faut qu'elles mettent les moyens. Et je pense qu'elles ont intérêt à le faire. Par contre, et c'est un autre sujet, la régulation ne résoudra pas tous les problèmes, parce qu'il y a aussi des problèmes qui sont un peu endémiques, qui sont le business model dont on parlait tout à l'heure, qui est vraiment déjà problématique. Et le fait aussi que, d'une certaine façon, c'est la plateforme qui décide ce qu'on a le droit de mettre ou ce qu'on n'a pas le droit de mettre, ce qui, d'un point de vue, disons, de démocratie, est quand même un peu bizarre. Pourquoi ce serait eux qui décident ce qu'on a le droit de dire ou pas dire dans le domaine public?
Mais ça, c'est une forme de régulation. Il s'agit d'agir en amont. Voilà. Digital Services Act, d'une certaine manière, agit davantage en aval. Là, c'est clairement agir en amont sur, vous dites, les business plans pour modifier le contenu, finalement, du format TikTok.
Alors, il fonctionne déjà plutôt en amont, mais il ne va pas jusqu'à dire la société doit participer à l'élaboration des règles. C'est quelque chose qu'on aurait pu faire, mais ils n'ont pas été jusque-là. Ça prendra encore du temps. Pourquoi la société ne participe pas à l'élaboration de ce qu'on a le droit de dire ou pas? L'autre chose, c'est que peut-être qu'il y a d'autres modèles économiques qui sont plus intéressants, qu'on commence à voir émerger. On n'est pas c'est pas la feuille blanche. Hein. Il y a déjà des modèles comme Mastodon, des systèmes comme Mastodon, qui sont basés sur d'autres idées que d'avoir des plateformes gigantesques dans lesquelles tout le monde va. Et ça, le DSA va un tout petit peu dans cette direction avec des questions comme l'interopérabilité, mais on en est encore très très loin.
Katia Roux, est-ce que c'est pas un leurre de penser être capable d'agir de manière concrète face aux menaces des réseaux sociaux? TikTok, évidemment, en tête, parce qu'il y a eu, alors là, on parle Digital Services Act, comment agir en amont avec peut-être intervenir sur les business plans des géants. Il y a eu des lois sur une majorité numérique, mais ça paraît tellement difficile à être appliqué. Est-ce que les gens ne seront pas toujours au-dessus?
Alors, on n'a pas le choix, en réalité.
Ouais, on n'a pas le choix,
que de réguler et que de demander le changement, je suis d'accord avec ce qu'il y en a dit, de modèle de développement économique. Parce qu'en fait, en réalité, là, on va voir ce genre d'impact sur les droits humains continuer, se multiplier, se développer. Nous, on avait aussi enquêté sur Meta au Myanmar, son rôle dans le nettoyage ethnique au Myanmar, en Éthiopie. On a alerté sur le fait que s'il n'y avait pas fondamentalement un changement dans le modèle de développement économique, ça allait se reproduire, et ça se reproduit. Là, on enquête sur TikTok et l'impact sur les jeunes. Et on voit aussi l'impact délétère, dramatique que ça peut avoir. Donc oui, un règlement comme le DSA va dans le bon sens. Il ne va pas suffisamment loin. Il y a quand même une interdiction de la publicité ciblée, intrusive en ligne. Ce qui est un pas dans la bonne direction, mais ça ne remet pas en cause le modèle de développement en tant que tel. Il y a des options pour que ces réseaux sociaux deviennent vertueux et soient véritablement des espaces d'exercice des droits humains. Sur la publicité ou sur les contenus, par exemple, on pourrait imaginer une démarche volontaire d'inscription et pas de désinscription. Aujourd'hui, tous les paramétrages par défaut garantissent en fait ce profilage et cette surveillance en ligne. Et on sait que c'est très fastidieux, que les utilisateurs ne vont pas les changer. Donc déjà, rien que ça, de pouvoir changer la manière dont la plateforme présente les différents fils, ça peut avoir des impacts. Mais je suis d'accord, c'est plus profondément qu'il faut aller complètement changer ce modèle de développement économique qui ne permet pas l'exercice des droits et qui est extrêmement dramatique parfois. Enfin, on parle là de possibles suicides, on parle de nettoyage ethnique. Ouais. On est vraiment sur des situations où, de toute façon, les États, comme les entreprises, ont une responsabilité. Les entreprises, au regard du droit international, doivent respecter les droits humains et les États doivent imposer aux entreprises qui ne se réguleront pas toutes seules un cadre pour le faire.
Vincent Lefrère, l'heure tourne et on approche déjà de quelques minutes de la fin de notre émission. J'aimerais prendre un tout petit peu de hauteur, vous qui êtes maître de conférence en économie. Est-ce que, puisqu'on pose la question ce soir, est-ce que TikTok est dangereux finalement? Pourquoi ce modèle fonctionne aussi bien aujourd'hui? Est-ce que vous diriez que c'est une évolution de nos sociétés? On a commencé par ces fameuses vidéos très courtes, très addictives. Est-ce que c'est la révélation d'une évolution de nos sociétés aujourd'hui ou est-ce que c'est finalement l'inverse?
Je pense que... Alors, c'est une question qui est difficile parce que c'est un peu l'œuf ou la poule. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que c'est difficile d'y répondre. Ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne très bien pour une raison. Déjà, c'est gratuit d'accès. Et ça, c'est ce qui a permis la révolution numérique. C'est quand même la gratuité à grande échelle, que ça soit sur les GPS, etc., en échange de nos données personnelles, qu'on a tout à fait acceptées. Deuxièmement, je pense qu'il y a eu aussi à un moment donné une espèce d'illusion, d'un mensonge sur ces plateformes-là, c'est-à-dire qu'on a tendance à oublier, mais Facebook a été décrit comme le chantre de la liberté d'expression lors des printemps arabes, etc. Et donc, du coup, on s'est laissé totalement absorber et fasciné par ces plateformes qui arrivaient à créer des espaces de communication, d'échange, en échange de quelques données personnelles, puis on se rend compte que ces données personnelles peuvent être utilisées à mauvais escient, et du coup, là, on se pose la question de les réguler. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, et qu'en effet, je pense qu'aujourd'hui, il est très difficile, à l'heure actuelle, de proposer un service payant sans données, en échange de ne pas avoir de données personnelles. Donc, à partir de ce moment-là, ces plateformes, elles émergent, parce que c'est le système qui marche. Et quand j'entends que les plateformes doivent être plus vertueuses, moi, j'y crois pas trop. On est dans un système où ces plateformes, leur but, c'est de maximiser leurs profits, bien que dans l'état d'esprit de la Startup Nation, à un moment donné, on nous a fait croire que c'était des entreprises vertueuses. Non, leur but, c'est de maximiser leurs profits, et ça le sera toujours. Donc, si elles utilisent ce système-là, c'est que c'est le système qui marche. Voilà. Et d'ailleurs, les plateformes chinoises avec les AliExpress et Temu en sont aussi une certaine forme d'exemple. C'est-à-dire que tout est pas cher et avec beaucoup de publicité.
Donc, clairement, l'enjeu économique.
Voilà, consommation mince.
Et vous n'avez pas directement répondu à mes questions.
Pardon.
Ce que révélait, pardon, je voudrais comprendre pourquoi est-ce que TikTok fonctionne aussi bien, pour conclure notre émission. Pourquoi est-ce que ces vidéos, voilà, encore une fois, est-ce que c'est un reflet de notre société, le fait que des vidéos de quelques secondes rendent addicts des milliards d'utilisateurs aujourd'hui, particulièrement des ados?
Oui, je pense que c'est tout de suite, avec une information très courte, très précise, très, très vulgarisée et très caricaturée, tant dans le divertissement que de l'information pure et dure, et que du coup, on confond un peu la prise d'information et la réflexion, et qu'aujourd'hui, on bombarde les adolescents ou les gens d'émissions courtes, enfin en tout cas de vidéos très courtes, avec des publicités aussi, elles, très courtes, et le but, c'est de maximiser l'information et de, si vous voulez, de créer une espèce d'addiction et de l'attention permanente sur ces plateformes-là. Et ça fonctionne, et c'est pour ça qu'elles ont autant d'utilisateurs. Il ne faut pas oublier que TikTok a dépassé Instagram aux États-Unis, par exemple. Donc, pourquoi elle s'arrêterait ?
TikTok, 1,2 milliard d'utilisateurs à travers le monde. Gros enjeu économique, vous nous dites, Vincent Lefrère, et je retiens, pour conclure ce débat, eh bien que face au danger de TikTok, un mot que vous avez tous les trois prononcé, la régulation. Merci beaucoup Vincent Lefrère, maître de conférence en économie à l'Institut Mines Télécom Business School. Merci Serge Abitboul, informaticien, chercheur à l'ENS Paris et directeur de recherche à l'INRIA. Et merci Katia Roux, chargée de plaidoyer et liberté pour Amnesty International France, spécialisée en technologie et droits humains. C'est déjà la fin de ce débat du jour.